Et puis ici à Atlanta, Ismaël Diallo, ancien député et ancien diplomate burkinabé. Merci à tous d'être avec nous. Donc, et je démarre avec vous, Mamadou. Qu'est-ce qu'on sait pour l'instant des assaillants? On sait que le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans affilié à Al-Qaïda a rejeté toute responsabilité et a même dénoncé des actes odieux. On sait que c'est une zone où le GSIM est très actif, mais également le groupe État islamique. Est-ce qu'on en sait un peu plus?
Non, pour le moment, on n'en sait pas un peu plus. Mais au regard du monde opératoire, on sait quand même que nous avons affaire à un groupe assez violent, un groupe dont la violence pourrait être attribuée à l'État islamique au Grand Sahara, dont c'est vraiment le monde opératoire. On a vu ce qu'ils ont fait au Niger, on a vu le même mode opératoire qu'ils ont utilisé et qu'ils ont revendiqué. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que le Yaga est une zone d'opération de ces trois groupes-là, de ces deux groupes-là plutôt, l'État islamique au Grand Sahara et le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans.
Et pourquoi, selon vous, ils ont tardé à revendiquer? D'habitude, ces groupes revendiquent assez tôt. C'est un peu à cause de l'indignation que cela a suscité au niveau international?
Oui, c'est plausible. Et c'est plausible aussi que ce soit des éléments isolés qui n'ont pas respecté le mot d'ordre. Parce qu'apparemment, l'attaque visait les VDP et aussi les forces de défense et de sécurité. Généralement, lorsque ça se limite à là, aux deux groupes, les VDP et les forces de défense et de sécurité, rapidement, l'attaque est revendiquée. Mais là, on a vraiment eu affaire
à un carnage. Vous faites allusion aux volontaires, c'est ça?
Volontaires pour la défense de la patrie. Mmh.
On va revenir à Ali dans un instant. Alors, Ismaël Diallo, la région administrative du Sahel où l'attaque s'est produite fait un peu plus de 13 000 km². Pourquoi l'État n'arrive pas à protéger les populations dans cette zone proche du Mali où des groupes sont actifs? On sait que c'est une zone, disons, très dangereuse pour les populations.
Oserais-je avancer que beaucoup de nos pays dits francophones ont malheureusement hérité du système administratif et politique français qui est de s'assurer et de sécuriser le centre du pouvoir et la périphérie, on verra. Donc les zones éloignées de la capitale politique sont souvent délaissées par nos administrations et par nos réseaux politiques. Voilà pourquoi donc Solhan, le Sénat en général et le Nord et surtout le Sahel burkinabé ont eu très peu de présence effective et efficiente de l'État pendant des décennies.
D'accord. Et Mamadou, la critique qu'on entend souvent, c'est qu'avec la présence des armées nationales au Burkina, au Mali, au Niger, la présence également du G5 et de Barkhane, on n'arrive pas à maîtriser ces groupes. Est-ce un problème de renseignement ou de moyens logistiques selon vous?
Selon moi, il y a effectivement un problème de moyens logistiques, mais ce qui est plus criant, il y a un problème de coordination. Il y a un problème de coopération entre les États. Et quand vous observez un peu la stratégie de ces groupes armés terroristes, ils se jouent des frontières. Eux, ils n'ont pas de frontières, ils passent d'une frontière à une autre, et en fonction de la menace, en fonction de la réponse du pays. Malheureusement, nos pays n'arrivent pas à s'accorder pour laisser tomber les barrières et aller ensemble dans la lutte contre le terrorisme. Je pense que c'est malheureusement... Et cette faille qui est largement et suffisamment exploitée par les groupes armés terroristes qui utilisent une stratégie qui est vraiment imparable, qui est la stratégie de la mobilité entre les différentes frontières.
Alors, justement, c'est une zone où on a vu ces groupes se mouvoir à moto en grand nombre, c'est difficile de dire que peut-être qu'ils ont parcouru des kilomètres. C'est assez compliqué de dire que personne n'était au courant.
Oui, effectivement, c'est assez compliqué, mais il faut vous dire que ces groupes ont pris le soin de s'implanter dans ces zones depuis déjà plusieurs années. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis 2017-2018, ils avaient commencé à avoir un certain ancrage. Donc, ils ont créé des couloirs et des zones de confort qui les permettent de circuler de partie d'Iyaga en passant par l'Oudaland et redescendre jusqu'à l'est et jusqu'aux frontières togolaises-béninoises. Donc, c'est des stratégies qui ont été vraiment savamment orchestrées dans le silence et des États et des armées qui n'ont pas pu les arrêter, qui n'ont pas pu empêcher le déroulement de cette stratégie. Aujourd'hui, ils ne font que dérouler. Et donc, ça veut dire que c'est des plans qui ont déjà été élaborés et qui sont vraiment en train d'être déroulés tranquillement.
Alors, M. Diallo, les supplétifs contribuent-ils vraiment à la sécurisation des populations? On a vu que pour cette attaque, ils ont même été ciblés en premier. Est-ce qu'ils sont vraiment outillés pour faire face à ces groupes?
J'ai eu le malheur à Ouagadougou lors d'une interview à une radio Ouaga FM, de dire très peu de jours après l'annonce par le président du FASO de la création de ces supplétifs, de dire que, un, c'était une décision hâtive, deux, la mise en œuvre de cette décision connaîtra beaucoup d'écueils. J'ai été pris à partie par beaucoup pour cela. Parce qu'effectivement, à chaud comme cela, d'abord, c'est un aveu que les forces de défense et de sécurité ne sont pas capables d'assurer leur mission sur toute l'étendue du territoire, ce qui, après tout, peut arriver. Mais c'est le legs, c'est la conséquence de décennies de mauvaises actions et de mauvaise gouvernance. Mais également, dans la création de ces supplétifs, il y a des facteurs ethniques, des facteurs de rejet, et la formation n'a duré que 2 semaines. On ne peut pas former un combattant en 2 semaines. C'est du leurre. C'est du maquillage. Et quel est le degré de conscientisation dans l'art de la guerre, dans le respect des autres, des droits humains? On a vu que plusieurs fois, ils se sont transformés en réalité en prédateurs et en tortionnaires de personnes innocentes. Ceci n'est pas pour jeter le feu sur qui que ce soit. C'est pour dire simplement que dans une entreprise de ce genre, il faut raison garder et il faut faire très attention à ce que l'on fait. Donc oui, ces supplétifs étaient peut-être nécessaires, mais ils sont davantage nécessaires dans l'amont. C'est-à-dire qu'il faut se mettre en amont des attaques terroristes. Et l'amont des attaques terroristes, c'est l'information, c'est le renseignement. C'est par là que l'on peut gagner la guerre contre le terrorisme. Ce n'est pas en réagissant. Lorsqu'on attend que le terroriste attaque et qu'on réagit, on a déjà perdu. Surtout quand on vient après son départ, après son forfait et après son départ. Alors, en un mot comme en mille, vous savez, il faut se reprendre. Et je suis content que le président du FASO, à l'occasion de la visite aujourd'hui du président Nana Akufo-Addo, dise qu'il faut que nous nous ressaisissions. Ce sont ses mots à lui-même, le président Kabore.
Alors, Ali Nana, justement, ces corps, disons ces volontaires pour la défense de la patrie que vous avez d'ailleurs contribué à créer, sont-ils vraiment bien outillés aujourd'hui à faire face ou en tout cas à jouer le rôle d'appui aux forces de défense et de sécurité?
Oui, mais il faut reconnaître, bonjour à ces auditeurs. Il faut d'abord remonter à 2019 pour l'histoire de la création des volontaires de la patrie à la suite solennelle du président du FASO et un projet de loi à la représentation nationale. Et pour une première fois, l'Assemblée nationale du Burkina Faso a adopté à l'unanimité une loi insistant le volontaire pour la défense de la patrie. Alors, le contenu de cette loi devait reverser dans la dans le volet formation. Oui, si tes volontaires sont bien, on peut dire oui et non. Oui, dans la mesure où ces volontaires-là sont sous l'autorité et l'encadrement de nos unités, qui est aujourd'hui une armée professionnelle. Parce que effectivement, les deux semaines pour ces volontaires sont jugées sur la de la cause et du phénomène du terrorisme. Donc aujourd'hui, cette formation-là, c'est une formation continue et unique. Au fur et à mesure que nous avançons, nous essayons effectivement de formation et d'outils au maximum ces volontaires-là, tout en tenant compte effectivement de la question des droits de l'homme qui est une question fondamentale aujourd'hui en guerre. Donc aujourd'hui, les supplétifs des forces de défense et de sécurité sont bien outillés en fonction des réalités du terrain pour faire le travail. Mais comme on l'a dit, en matière de guerre, aucun moyen n'est de trop. Donc, c'est une prime mission, effectivement,
D'accord. Alors, voici quelques commentaires de nos téléspectateurs sur la page Facebook de VOA Afrique. Nous avons Dieudonné Bakoura, il est en Côte d'Ivoire, il nous dit « Il y a un manque de volonté de nos dirigeants d'anéantir ces groupes armés et ils se demandent quelle est la définition ou le sens de l'Union africaine. » Léon Akonda est à Kinshasa, il écrit « Une large coalition africaine sera une réponse farouche contre les groupes armés et les terroristes qui assiègent le Burkina Faso, le Mali, le Nigeria, l'Est de la RDC, etc. » Et puis Hassan Omar Boulalé est à Djibouti, il nous dit que le terrorisme international est un fléau mondial. Il faut combattre le terrorisme international par la sensibilisation et l'éducation, ainsi que la lutte contre le chômage. L'aspect militaire n'est pas la seule solution face au terrorisme. Voilà. Merci de rester fidèle à VOA Afrique. Washington Forum revient après une courte pause.
Hebdomadaire de VOA Afrique.
Une connexion Afrique-Amérique inédite où les Africains et les Américains se racontent.
Ces rencontres loin des clichés.
Un choc des cultures, bienvenue.
Dans Vous et Nous.
Suivez des interviews, des reportages originaux.
Nos rubriques web, nouvelles technologies.
Mode, amour, emploi, vous tiennent informés à l'air du temps.
Vous et Nous.
C'est moi.
C'est toi.
C'est Vous et Nous.
L'actualité africaine au quotidien, c'est ce que vous propose VOA Afrique. Je suis Anastasie Dudièche, à Kinshasa.
Heureux de vous retrouver pour la seconde partie de Washington Forum. L'attaque de Solane a suscité l'émoi à Ouagadougou et dans le reste du pays. Beaucoup demandent aux autorités d'agir pour protéger les populations dans les zones où sévissent ces groupes armés. Suivons ces réactions dans la capitale burkinabé.
Si un Burkinabé a des problèmes, c'est comme tous les Burkinabés qui ont des problèmes. Vraiment, on est vraiment découragé de la situation. Voilà, vraiment, ça nous fait, on a peur maintenant. On a peur. Voilà, on appelle les gens et si on est capable, si des individus sont capables d'attaquer un seul village, un village et puis il n'y a pas eu de réaction à temps pour qu'on puisse sauver ces villages, ces villageois, vraiment, ça n'a pas été, bon, je n'ai pas été content de la situation.
Ça a repris quoi, parce qu'il y avait un temps, ça a arrêté, voilà, on voyait qu'on pensait même que c'était bon. Ça va, mais maintenant, ces situations-là, ça répris, on tire les gens, c'est tout aussi ce qu'on a entendu, ces nouvelles-là. Vraiment, ça touche en tant qu'un Burkinabé, quoi. Donc, on demande, voilà, qu'ils vont voir la sécurité-là, pour qu'on assure ça, quoi. Pour que les gens aillent la paix dans le pays, dans les provinces.
Ça nous fait mal, on ne suis pas content. Ne suis pas content. Faut que les autorités, là-même, eux-mêmes, ils vont voir comment ils peuvent aider la population. Surtout dans les villages au nord, là-bas, les gens souffrent beaucoup. Voilà, donc, on demande le président du Faso, il n'a qu'à aider les gens du nord, voir comment il peut faire pour eux, quoi. Parce qu'au moins 100 morts, c'est pas facile. Dans une seule journée, bon, ça nous fait tellement mal.
Voilà. Voilà, merci beaucoup. Nos invités pour ce Washington Forum, je le rappelle, à Ouagadougou, Mamadou Sabadogo, expert en sécurité et chercheur sur l'extrémisme violent au Sahel, et toujours dans la capitale burkinabé, Nana Ali, coordonnateur du mouvement pour la résistance populaire, et puis ici aux États-Unis, précisément à Atlanta, Ismaël Diallo, ancien député, ancien diplomate burkinabé. Alors, Mamadou, vous pensez que l'attaque de Solane va constituer un déclic pour une prise en charge de la question sécuritaire, aussi bien au niveau national qu'international, surtout pour ce qui est de la zone des trois frontières?
Oui, je me dis que avec une telle violence et avec un tel drame, et il urge et il est important qu'effectivement on prenne conscience, on rebâcle les cartes et qu'on essaie de prendre le bon bout. Et ça vient encore confirmer qu'effectivement cette zone des trois frontières est une zone stratégique et pour les groupes armés terroristes, mais surtout pour les pays membres de la coalition du G5 Sahel. Donc et il est encore temps peut-être que les trois pays qui font partie du fuseau central du G5 Sahel et s'unissent et fassent tomber les barrières des frontières et mènent des opérations conjointes et afin de pouvoir nettoyer, afin de pouvoir chasser et ces deux grands groupes-là qui sont très enracinés et qui sont presque confondus et à la population. Et ils en ont transformé cette guerre en guerre communautaire, ce qui est encore plus difficile à déraciner.
Est-ce que vous espérez en tout cas une plus grande présence de l'État dans le Nord, pas seulement une présence militaire, mais également administrative, après cette attaque de Solane? M. Diallo, en première partie, expliquait un peu cette absence de l'État, justement.
D'abord, pour répondre à votre question, je tenais à souligner que je ne partage pas l'avis de M. Sawyer sur la question. Mm-hmm. Parce que si M. Bouchina, il sait au moins de la réalité sur le plan terroriste. Parce qu'effectivement, nous rappelons qu'il faut une implication forte des populations dans ces gens de lutte. Nous pouvons prendre l'exemple du Nigeria, prendre l'exemple de l'Algérie, et plus loin encore dans le reste du monde, il y a eu beaucoup d'exemples où la population était obligée de s'impliquer dans une lutte pour libérer l'État. Aujourd'hui, allez, les volontaires, je ne sais pas s'il est au parfum de ce qui se passe ici. Parce que la réalité de Ouagadougou est différente des autres réalités, à savoir le nord, l'ouest et l'est, et puis le nord-ouest. Je crois que tenir ce langage-là, vu que les volontaires sont des et qu'il faut rapidement recadrer.
Mais Ali, l'implication de cette population peut se faire à différents niveaux, pas forcément sur le plan militaire, surtout si ces civils ne sont pas bien équipés et bien formés.
Mais les volontaires interviennent en amont et en aval, notamment dans les renseignements. Si vous voyez les missions qui sont assignées à ces volontaires-là, il y a les missions de renseignement, missions d'alerte. Et à tout ça. Et maintenant, en dernier ressort, les VDP sont opérationnels sur le terrain, sous la tutelle, je le répète, sous l'encadrement technique de nos forces de défense et de sécurité. Nous avons une armée, ça ne veut pas dire que les volontaires sont venus remplacer l'armée burkinabé. Non, ils sont des supplétifs. La loi dit que ce sont des supplétifs des forces de défense et de sécurité. Ils sont encadrés. Et pour qu'un volontaire soit envoyé sur le terrain, il faut qu'il subisse une formation de semaine.
Ismaël, le gouvernement promet de réagir. Pour vous, en quoi doit consister cette réponse?
Le gouvernement promet de réagir. C'est ce qu'il dit tout le temps. Encore une fois, et j'entends bien mon précédent interlocuteur.
Ali Nana.
Nous ne sommes pas dans une querelle de tranchées. Un tel est pour le VDP, un autre est contre. La question n'est pas là. C'est une question d'apport de tout le monde et d'efficacité. Voilà où nous sommes. Ce n'est pas qu'il faut ou il ne faut pas le VDP. S'ils ne sont pas utiles, il faut le dire. S'ils sont utiles, il faut le dire. Et la réalité, malgré ce que dit le gouvernement et l'état-major de l'armée et ce que disent les turiféraires des VDP, la population burkinabé, les populations burkinabées n'ont pas le sentiment que les autorités, toutes tendances confondues, ont le dessus sur la lutte contre le terrorisme. Voilà où nous en sommes. C'est le même sentiment. Alors, que...
qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est la question. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire ?
La question, c'est, encore une fois, le président du Faso lui-même l'a dit ce matin, il faut se ressaisir. Mais se ressaisir veut dire quoi ? Ça veut dire avoir l'humilité d'accepter que jusqu'à présent, on s'est trompé de stratégie. Si nous en avons une, le chef du gouvernement du Burkina, le premier ministre, a reconnu devant l'Assemblée nationale qu'il n'avait pas de stratégie. Il nous faut une stratégie. Celui qui n'a pas de stratégie ne sait pas où il va. Et cette stratégie, c'est quoi ? C'est de rediscuter avec les populations, d'inclure tous les leaders d'opinion, tous les influenceurs, pour amener les populations à comprendre qu'elles ne peuvent pas continuer de fuir, qu'elles ne peuvent pas continuer d'attendre tout de l'État, qu'elles ne peuvent pas surtout aussi dormir et attendre que des terroristes arrivent à 2h du matin les réveiller pour les massacrer. Ça n'a pas de sens. Depuis la nuit des temps, il y a des sentinelles partout quand il y a des zones et des périodes de conflit. Alors ça, c'est un minimum. Il faut d'abord avoir l'avantage de l'information, du renseignement, et ne pas attendre qu'il arrive.
Et
ce n'est pas avec des chars, avec des camions blindés, des véhicules blindés, qu'on va attaquer des gens en moto. Il faut se mettre au même niveau qu'eux. Il faut avoir des commandos en moto. Et ça, on en avait des commandos en moto. On en avait. Comment est-ce que Blaise Compaoré a pris le pouvoir à Ouaga le 3 ou le 4 août 83? C'est avec des motos. C'est pas avec des chars qu'il est venu à Ouaga. De 100 km.
Alors, Mamadou, les leçons de Solane pour vous, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut apprendre de Solane pour que ça ne se répète plus?
Ce qu'il faut apprendre de Solane pour que ça ne se répète plus, c'est que nous devons savoir que nous avons affaire à une lutte de stratégie. Nous devons savoir que nous avons affaire à une guerre asymétrique où la population est au cœur de cette stratégie-là. Effectivement, comme le dit Ali Nana, la population est au cœur de cette stratégie, mais ce n'est pas une stratégie de tranchée, ce n'est pas une stratégie qui consiste à réagir face aux actions des groupes armés terroristes, mais c'est une stratégie qui consiste à construire et un système et qui met les populations au cœur de cette lutte. Et mettre les populations au cœur de cette lutte, c'est quoi? C'est protéger au maximum ces populations-là, de telle sorte qu'à ce que ces populations basculent du côté des forces de défense et de sécurité, de telle sorte qu'à ces populations et elles-mêmes et donne l'information d'elle-même et protéger surtout ces populations pour que ces groupes armés ne reviennent plus et anéantir ces populations, ne reviennent plus agresser ces populations. Parce que si nous perdons la confiance de ces populations, nous avons perdu aussi cette guerre, quels que soient les moyens humains, matériels, quels que soient utilisés, nous n'allons pas venir à bout. Et je prends notre stratégie et de la remettre à plat, de comprendre les dynamiques et les problèmes propres à chaque région et apporter une réponse adaptée à chaque région parce que chaque région présente des dynamiques qui sont différentes. Ça veut dire que les réponses ne doivent pas être holistiques, mais des réponses doivent être adaptées à chaque région. S'il y a des régions qui ont besoin de la force militaire, qu'on l'utilise. S'il y a des régions qui n'en ont pas besoin, eh bien qu'on ne l'utilise pas parce qu'on ne fait qu'aggraver la situation.
Malheureusement, nous arrivons au terme de ce Washington Forum. Merci à mes invités et à vous qui nous avez suivis à travers nos télépartenaires sur le continent, mais également sur la page Facebook de VOA Afrique et sur voafrique.com. Je n'oublie pas également toute l'équipe technique. À très bientôt. Au revoir.